paraît tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayuba Traoré.
La semaine dernière, M. Christophe Alimani, qui est professeur associé en management d'entreprise, référent entrepreneuriat à Bordeaux Sciences Agro, nous parlait de la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes Africains à travers l'exemple de la chaire internationale « Le système alimentaire et entrepreneuriat en Afrique ». Aujourd'hui, comme promis, nous allons voir ce qu'il en est en République de Côte d'Ivoire. Le secteur agricole représentait en 2018 28% du PIB de la Côte d'Ivoire et 40% des exportations du pays. La population ivoirienne se partage entre 12,6 millions d'urbains et 12,3 millions de ruraux. Le secteur agricole emploie 46% des actifs et fait vivre les deux tiers de la population. En Côte d'Ivoire, en 1998, 49% des paysans pratiquant l'agriculture vivrière sont touchés par la pauvreté, dont 50% de femmes. En outre, la population adulte de plus de 15 ans comptait 51,3% d'analphabètes, surtout en milieu rural où un enfant sur deux n'est pas inscrit à l'école. 10 ans après, la situation économique s'est profondément aggravée. Et en 2009, le taux de pauvreté en milieu rural s'est particulièrement aggravé avec la crise militaro-politique. Il a augmenté de 13 points, passant de 49% à 62,45%. Si l'agriculture reste le poumon de l'économie ivoirienne, la formation au métier de l'agriculture reste cependant problématique. Le dispositif actuel de formation professionnelle est faible. Pour nous en parler, nous n'avons pas pu trouver meilleur interlocuteur que M. Siaka Kone, qui est directeur de l'École supérieure d'agronomie de Yamoussoukro. D'abord, un état des lieux.
Avant tout propos, je voulais vraiment dire que l'entrepreneuriat, de façon globale, souffre un peu. Il y a vraiment très peu de jeunes qui s'y engagent. Et cela arrive effectivement à beaucoup de jeunes qui n'ont pas de l'emploi et qui se retrouvent sur le carreau. On a pu identifier 4 grandes contraintes globalement qui sont les difficultés et qui sont aussi par ailleurs des défis pour nous. C'est un, la question de la formation, parce que tous les cursus de formation étaient plutôt orientés vers des jeunes qui devaient aller travailler soit dans le secteur privé ou le secteur public, donc en tant que salariés. Et pendant très longtemps, les pays ont fonctionné comme ça, sans vraiment développer l'entrepreneuriat auprès des étudiants pour qu'ils profitent des opportunités éventuellement du marché.
On va s'arrêter une minute sur ce problème numéro un, c'est-à-dire qu'au début des indépendances, on n'avait pas suffisamment de cadres. L'État voulait former du personnel pour ses démembrements.
Notre école, par exemple, quand les étudiants rentraient à l'école, ils avaient déjà un numéro de matricule et ils étaient directement orientés pour les sociétés de développement au lendemain des indépendances, en fait. Donc, avec les flux sortants, les postes disponibles ont été comblés avec de plus en plus de jeunes qui chômaient sur le terrain.
Ça, c'est le problème numéro un.
Voilà. Deuxième problème, c'était le problème de financement. Même les quelques initiatives d'entrepreneuriat qui ont été mises en place, ils ont été confrontés au problème de financement de deux natures. Dans un premier temps, c'est la question de l'accès, parce que nos banques sont des banques classiques qui, en général, prêtent à des gens qui ont déjà des revenus stables, notamment des fonctionnaires ou qui ont des avals. Et donc, ces jeunes n'avaient pas à accéder au système financier. Deuxième problème, même quand ils accèdent au système financier, les modalités des prêts étaient contraignantes, notamment en termes de taux d'intérêt, en termes de délai de remboursement et en termes de modalités de remboursement.
C'est-à-dire que, par exemple, je vais demander un crédit pour entreprendre quelque chose, la banque va me demander des garanties que je ne peux pas lui offrir parce que, justement, je suis allé voir cette institution parce que je suis pauvre.
Et ça peut être une contrainte et ça sort. Et même si vous avez une belle idée d'entrepreneuriat, la motivation, du fait que vous n'avez pas certaines garanties, vous n'allez pas accéder au financement et vous ne pouvez pas créer une entreprise.
« Les difficultés à ce niveau vont au-delà de ce que laisse entendre M. Siaka Kone, parce qu'un banquier ne sait pas comment parler au monde agricole et les acteurs des filières agricoles ne savent pas comment fonctionne une banque. Plus des difficultés au niveau de la fiscalité des entreprises.
Voilà, le troisième problème, c'était donc la question de l'environnement des affaires. Hein. Donc, tout ce qui est fiscalité et parafiscalité était quelque chose de lourd. Je prends un exemple, un jeune qui crée une entreprise. Dès le début, les fiscalités de nos pays n'étaient pas adaptées pour lui permettre des rabattements et même des questions d'exonération.
Par exemple, je vais faire un élevage de volailles. Oui. Il me faut des équipements. Et pour acquérir ça, il y a des taxes dessus qui viennent compromettre mon budget.
Voilà, qui viennent greffer le budget et ça augmente encore la question du financement en fait.
Bah oui.
Voilà. Et puis aussi, un jeune qui s'installe au début, il peut être déjà soumis à une fiscalité au bout d'une année. Prenez par exemple les VA, vous allez commencer à produire à partir de la 7e année, mais le potentiel de production va arriver vers 10 ans.
Donc il faut expliquer au banquier que par exemple, si je plante un manguier, je dois attendre 3 ans avant de pouvoir récolter quelque chose.
Merci beaucoup. Alors qu'à la banque, ils vont vous considérer comme une entreprise commerciale pure. Au bout de 6 mois, ils veulent que vous commencez à rembourser, alors que ce n'est pas possible.
Quatrième problème.
Et le dernier, c'est aussi un problème sociologique lié à la préférence des bureaux. Hein, vous savez un peu les jeunes, quand ils font l'école, ils veulent se retrouver demain en cravate et puis en veste, avec un chauffeur en train de le conduire. Donc, c'est un problème sociologique qui est souvent alimenté par la famille.
Oui, mais la psychologie compte beaucoup dans ces histoires-là parce que un père ne peut pas comprendre que son fils ait fait l'université, une école supérieure et vient être planteur comme lui.
C'est ça. C'est pourquoi vous voyez qu'on met tout ce dispositif-là pour dire qu'il peut être des mêmes planteurs, mais un planteur particulier. Je prends par exemple les grandes sociétés de développement, c'est pour des familles. Donc, on leur montre cette trajectoire, mais il faut un accompagnement sociologique et psychologique auprès de ces jeunes-là et un encadrement quelque part des échanges avec leurs parents, quoi, pour qu'ils deviennent des modèles de succès et qu'ils comprennent qu'aussi, à travers la terre, on peut avoir plus d'argent qu'être dans un bureau, quoi.
J'ai vu que votre chaire s'adresse de façon préférentielle à des étudiants en agronomie qui ont fini leur cycle. Alors, quel est l'objectif de ces formations et quel est le contenu de la formation que vous dispensez?
Nous-mêmes, déjà vu la difficulté et en ayant pointé la question de la formation, notre institution, depuis plus de près de 5-10 ans, a commencé à mettre en tout cas l'entrepreneuriat au cœur de son dispositif de formation.
Donc, vous aviez commencé par vous-même?
Voilà, on a commencé par nous-mêmes déjà. Parce qu'on est un incubateur et on a des programmes où on accompagne les jeunes à la sensibilisation, à l'entrepreneuriat agricole. Et les quelques exemples de succès qu'on a, on les envoie à l'école pour qu'ils échangent avec les étudiants, pour qu'ils aient en fait une deuxième corde à leur arc pour leur dire qu'ils peuvent être salariés, mais ils peuvent aussi travailler pour leur propre compte et demain plutôt payer des salariés.
D'accord.
Donc ça, c'est des choses que, c'est des discours qu'on tient dans nos cursus de formation. Et on a toute une formation axée sur l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes à la création des entreprises, en fait.
Donc, vous étiez déjà préparé avant d'intégrer cette chaire internationale.
Voilà. Donc, c'est sur toute cette base qu'on a été identifié pour que la chaire puisse démultiplier nos actions et nous aider vraiment à donner plus d'opportunités aux jeunes.
D'accord. Donc, en fait, la chaire vient renforcer ce que vous faisiez déjà.
Voilà. Et nous permettre d'être plus à l'aise. Et surtout, l'innovation de la chaire, on va créer un parcours ingénieur-entrepreneur. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que le jeune qui sort, il a son diplôme d'ingénieur, mais en même temps, il a un parcours d'entrepreneuriat parce qu'il a un projet propre et personnel pendant lequel on va l'accompagner avec tout le dispositif de la chaire, Pierre Castel.
Alors justement, cette chaire Pierre Castel, moi j'ai identifié dans le parcours deux étapes principales. Il y a la formation que vous donnez à l'entrepreneuriat et puis à l'issue de cette formation, il y a un accompagnement.
L'accompagnement, il y a de deux ordres. Déjà, on a fait une formation rapidement, déjà, tout ce qui est entrepreneuriat et tout, des notions techniques qui se réfèrent à leur projet. Et dans la deuxième partie de l'accompagnement primaire, on va dire l'accompagnement primaire, on permet à ces jeunes-là de tester in situ, ici, déjà, leur premier projet. Un jeune qui veut se lancer dans la création de volailles, par exemple, avec l'exportation, on lui permet déjà d'avoir lui-même un volailler ici, avec un accompagnement d'un mentor et d'un coach, en fait. Et donc, ça lui permet lui-même déjà de toucher du bout du doigt avant d'aller en situation réelle. Mettre son projet une première étape de la faisabilité des difficultés, des défis et de tout l'environnement lié à son projet professionnel.
Donc déjà au sein de l'école, il a déjà, pendant sa formation, il a déjà une structure, disons une microstructure qu'il doit apprendre à gérer.
C'est ça, et qui gère de façon autonome. Donc dans sa gestion, il y aura donc affaire aux aspects techniques liés à son projet, mais il y aura aussi affaire à des problèmes qui sont d'ordre des fonctions support, tout ce qui est management, leadership, gestion du marché, gestion du portefeuille client, gestion des banques et tout. Donc on essaie vraiment déjà au sein de l'école qui va confronter à une mini-réalité quoi qu'il attend dans 6 mois ou dans 1 an.
L'idée, c'est de plonger le futur ingénieur agronome directement dans le monde des affaires, assurer la formation théorique et dans le même temps confronter le jeune aux réalités du monde des affaires.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant cette phase-là, on le met aussi en contact avec des banquiers, il monte son business plan et il fait discuter avec des personnes. Donc, on va lui apprendre aussi à aller capter des fonds sur le marché financier qui sont des fonds adaptés à son entreprise qui va passer en situation réelle. Et pendant tout ce processus, l'école vraiment accompagne ces jeunes-là pour vraiment en termes de conseils, en termes d'analyse, d'appui. Et on a un réseau d'anciens qui ont créé leurs entreprises qui viennent donc coacher aussi ces jeunes-là quoi, pendant tout ce processus-là pour que le taux d'échec soit le plus faible possible, voire même zéro, quoi, et que tout le monde puisse créer son entreprise. Voilà.
Alors, quel est l'objectif final de cette affaire? Autrement dit, pourquoi vous voulez développer l'entrepreneuriat agricole en Côte d'Ivoire?
On veut développer l'entrepreneuriat agricole parce qu'un jeune d'un certain niveau et qui est motivé et qui est accompagné et qui arrive à créer une entreprise, il crée par ailleurs plusieurs emplois derrière.
Donc, dans un premier temps, lutter contre le chômage des jeunes diplômés.
Voilà, on lutte contre le chômage des jeunes diplômés et par ricochet pour créer aussi de l'emploi à d'autres jeunes qui sont non diplômés et qui sont en attente d'emploi aussi.
Et en termes d'alimentation?
En termes d'alimentation, effectivement, les projets qu'ils font sont dans le domaine de l'agriculture. À l'intérieur, il y a tout ce qui est production végétale, tout ce qui est production animale, tout ce qui est élevage, poulet, volaille, les ruminants, et on le fait. On fait aussi la transformation des produits agricoles et animaux au sein de notre dispositif. Et le troisième pilier, c'est la commercialisation, tout ce qui est service hein, en accompagnement. Donc ce n'est pas l'agriculture au sens strict, c'est vraiment l'agriculture de façon large, hein, partant de la production jusqu'à la consommation. Et c'est pourquoi vous voyez que maintenant, dans notre dispositif, c'est des jeunes qui ont un niveau bac plus 5, qui sont ingénieurs, et il y en a qui sont en agroalimentaire, hein, qui ont fait la spécialité agroalimentaire et qui entreprennent dans la consommation tout ce qui est conservation des produits post-récolte et la transformation de ces produits. Mmh. Donc c'est toutes ces innovations que nous cherchons auprès de ces jeunes et que demain, ils soient capables d'être audacieux et d'apporter de l'innovation dans leur conduite de projet entrepreneurial pour que dans 5 ans, 10 ans, on ait des entreprises très structurantes qui ont vraiment une vocation non seulement nationale, sous-régionale et internationale.
Mais ça, c'est important parce que la Côte d'Ivoire est première puissance agricole de l'Afrique de l'Ouest. Et quand je lis les chiffres de la nutrition, de la dénutrition, de la malnutrition dans ce pays, j'ai du mal à comprendre.
C'est ça.
Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat.
Voilà, il n'y a pas d'entrepreneuriat, mais de plus en plus, vraiment, l'État de Côte d'Ivoire et la majorité des États africains mènent des actions. Et depuis le jeune âge, j'ai vu maintenant qu'il y a des actions de quelques notions d'entrepreneuriat même déjà à la formation de base, hein, de la formation de base jusqu'à l'université. Et je pense que d'ici quelques années, il y aura quand même des changements notables quoi, qui ont commencé déjà à être vus. En fait. Donc, il y a tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est formation. Et il faut des jeunes de ce niveau-là avec un bon bagage intellectuel.
Ben, en fait, vous leur expliquez comment le monde fonctionne, mais pas seulement à la plantation. Parce que nos agriculteurs aujourd'hui restent à la plantation et c'est quelqu'un d'autre qui quitte la ville, qui vient acheter le produit brut.
C'est ça.
Alors, vous le faites sortir de sa plantation pour aller voir comment le monde fonctionne.
Si. Et c'est pourquoi même le fonds Pierre Castel nous donne une opportunité extraordinaire. Parce qu'avoir une triangularisation entre la France, le Cameroun et nous, ça permettra même à ces jeunes-là de faire des mobilités croisées, de sorte qu'ils voient aussi comment le marché fonctionne au Cameroun ou en France, et comment ils peuvent avoir des opportunités, même en termes d'approche, d'innovation technologique et même en termes de connaissances. Hein. Un jeune qui a quand même une ouverture d'esprit large comme ça, parce qu'il a pu faire des mobilités, vous voyez qu'il n'est pas le même que celui qui n'a jamais bougé, quoi. Donc effectivement, dans notre processus, il y a vraiment cet esprit d'ouverture et qui soit aussi en contact avec les opportunités innovantes que le marché peut leur offrir.
Cette chaire internationale dispose d'un budget de 212 000 euros, 112 000 euros débloqués par le ministère français des Affaires étrangères et 100 000 euros par le fonds Pierre Castel. Et s'agissant du groupe Pierre Castel, c'est au travers de ses filiales en Afrique, SABC au Cameroun et Solibra en Côte d'Ivoire. La technique mise en œuvre ici, c'est ce que les financiers appellent un partenariat public-privé.
Pierre Castel, il est le fondateur de tout ce qui est les grandes brasseries. Hein.
Ah oui, d'accord, oui, d'accord, je vois.
Voilà. Donc du coup, vous voyez que le succès qu'il a fait à travers lui-même, c'est un entrepreneur né hein, qui a mis en place tout un réseau aujourd'hui international. Et derrière tout ce succès-là, il y a des valeurs à transférer à des jeunes. Hein. Et donc, c'est pourquoi ils ont incité pour mettre en place une chaire Pierre Castel pour soutenir le système alimentaire et l'entrepreneuriat en Afrique.
J'ai vu que la Solibra vous aide, le ministère des Affaires étrangères français vous appuie financièrement. Il y a beaucoup de partenaires dans cette affaire. Mais moi, j'ai une curiosité. Comment fonctionne une chaire à cheval entre trois universités?
Entre les trois universités, c'est vraiment, on travaille en sorte à avoir une synergie de réflexion. Hein, une synergie de réflexion et une synergie d'action. La réflexion, c'est déjà que les trois institutions qui sont dans trois pays différents ont des connaissances, ont des défis, ont des difficultés. Donc, et si on échange, il y aura des partages d'échanges et d'expériences entre ces trois institutions. Ça ne peut pas que nous grandir. Bordeaux Science Agro a des actions qui mènent, ont des jeunes. Tchang aussi au Cameroun en fait. Nous, à l'École supérieure d'agronomie de Yamsoko, on en fait. Donc, mettre en place cette plateforme-là permet de mutualiser et de mettre en synergie nos réflexions et puis nos connaissances, quoi. Donc, à travers la synergie des réflexions, ça va déboucher sur des actions certainement à mettre en place pour accompagner ces jeunes-là. Donc, aussi, on fait une synergie d'action, de sorte que les chercheurs et les enseignants de Tchang peuvent aussi donner leurs atouts aux étudiants ivoiriens ou français et vice-versa. Et ça, c'est, à notre avis, c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Ça veut dire que, par exemple, j'ai un problème au niveau du Cameroun. Je peux vous appeler, vous, à Yamoussoukro, pour demander est-ce que vous avez ce problème et comment vous l'avez résolu.
Exactement. On a des réunions, on va dire, semestrielles, qu'on fait de façon tournante entre les trois pays. Par exemple, nous, on va recevoir des enseignants de Tchang et de Bordeaux qui vont venir s'entretenir avec nos étudiants. Et au besoin, s'il y a des étudiants ici qui ont des soucis, qui peuvent être décodés ou bien qui peuvent être résolus en France, ben, on paiera un billet d'avion pour eux. Ils vont aller en une semaine voir comment ça se passe et pouvoir trouver des solutions pour revenir, pour mettre en œuvre ça dans notre pays. Et ça, c'est important.
D'accord. Alors là, moi, je vous dis merci de nous avoir consacré ce temps-là pour nous expliquer ce que vous faites, parce que c'est quand même très important pour l'avenir de ces jeunes et pour l'alimentation des populations africaines. Merci.
Merci beaucoup. Et nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires.
Et bon courage.
Merci beaucoup.
Nous étions en compagnie de M. Siaka Kone, qui est directeur de l'École supérieure d'agronomie de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ce scientifique nous parlait des difficultés de formation des jeunes entrepreneurs agricoles dans son pays, pourtant classé première puissance agricole de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
L'atelier des médias, Steven.